Les possédés, première partie, chapitre 3. Les péchés d'autrui. 1. 8 jours s'écoulèrent et la situation commença à s'éclaircir un peu. Je noterai en passant que, durant cette malheureuse semaine, j'eus beaucoup d'ennui, car ma qualité de confident m'obligea à rester, pour ainsi dire, en permanence auprès de mon pauvre ami. Ce qui le faisait le plus souffrir, c'était la honte, et pourtant il n'avait à rougir devant personne, attendu que, pendant ces 8 jours, notre tête-à-tête ne fut troublée par aucune visite. Mais en ma présence même il se sentait honteux, et cela à tel point que plus il s'ouvrait à moi, plus ensuite il m'en voulait d'avoir reçu ses aveux. Par suite de son humeur soupçonneuse, il se figurait que la ville entière savait déjà tout. Aussi n'osait-il plus se montrer, ni au club, ni même dans son petit cercle. Bien plus, il attendait la tombée de la nuit pour faire la promenade nécessaire à sa santé. Au bout de 8 jours, il ignorait encore s'il était ou non fiancé, et toutes ses démarches pour être fixé à ce sujet étaient restées infructueuses. Il n'avait pas encore vu sa future, et il ne savait même pas s'il était autorisé à lui donner ce nom. Bref, il en était à se demander s'il y avait quelque chose de sérieux dans tout cela. Barbara Petrovna refusait absolument de le recevoir. À une de ses premières lettres, il lui en écrivit une foule, elle répondit net en le priant de la dispenser momentanément de tout rapport avec lui, parce qu'elle était occupée. « J'ai moi-même, ajoutait-elle, plusieurs choses fort importantes à vous communiquer. J'attends pour cela un moment où je sois plus libre qu'à présent. Je vous ferai savoir moi-même, en temps utile, quand vous pourrez venir chez moi. » Elle promettait de renvoyer à l'avenir, non décachetée, les lettres de Stepan Trofimovitch, attendu que ce n'était que de la polissonnerie. Je lus moi-même ce billet, il me le montra. Et pourtant, toutes ces grossièretés, toutes ces incertitudes n'étaient rien en comparaison du principal souci qui le tourmentait. Cette inquiétude le harcelait sans relâche, le démoralisait, le faisait dépérir. C'était quelque chose dont il se sentait plus honteux que de tout le reste, et dont il ne pouvait se résoudre à me parler. Loin de là, à l'occasion, il mentait et cherchait à m'abuser par des faux fuyants dignes d'un petit écolier. Cependant, lui-même me faisait appeler tous les jours. Il ne pouvait rester 2 heures sans me voir. Je lui étais devenu aussi nécessaire que l'air ou l'eau. Une telle conduite blessait un peu mon amour-propre. Il va sans dire que depuis longtemps, j'avais deviné ce grand secret. Dans la profonde conviction où j'étais alors, la révélation du souci qui tourmentait tant Stepan Trofimovitch ne lui aurait pas fait honneur. C'est pourquoi, jeune comme je l'étais, j'éprouvais quelque indignation devant la grossièreté de ses sentiments et la vilenie de certains de ses soupçons. Peut-être le condamnais-je trop sévèrement, sous l'influence de l'ennui que me causait mon rôle de confident forcé. J'avais la cruauté de vouloir lui arracher des aveux complets, tout en admettant, du reste, qu'il était difficile d'avouer certaines choses. Lui aussi m'avait compris. Il voyait clairement que j'avais deviné son secret, et même que j'étais fâchée contre lui. À son tour, il ne pouvait me pardonner ni ma perspicacité, ni mon mécontentement. Certes, dans le cas présent, mon irritation était fort bête, mais l'amitié la plus vive ne résiste guère à un tête-à-tête indéfiniment prolongé. Sous plusieurs rapports, Stepan Trofimovitch se rendait un compte exact de sa situation, Et même, il en précisait très finement les côtés sur lesquels il ne croyait pas nécessaire de garder le silence. « Oh, est-ce qu'elle était ainsi dans le temps ?» me disait-il quelquefois en parlant de Barbara Petrovna. « Est-ce qu'elle était ainsi jadis quand nous causions ensemble ? Savez-vous qu'alors, elle savait encore causer ? Pourrez-vous le croire ? Elle avait alors des idées à elle. Maintenant, elle n'est plus à reconnaître. Elle dit que tout cela n'était que du bavardage. Elle méprise le passé. À présent, elle est devenue une sorte de commis, d'économe, une créature endurcie, et elle se fâche toujours. Pourquoi donc se fâcherait-elle maintenant que vous avez déféré à son désir ? Répliquai-je. Il me regarda d'un air fin. Cher ami, si j'avais refusé, elle aurait été furieuse. Furieuse ! Moins toutefois qu'elle ne l'est maintenant que j'ai consenti. Sa phrase lui parut joliment tournée, et nous bûmes ce soir-là une petite bouteille. Mais cette accalmie ne dura guère. Le lendemain, il fut plus maussade et plus insupportable que jamais. Je lui reprochai surtout de ne pouvoir se résoudre à aller faire visite aux dames Drozdov. Elle-même, nous le savions, désirait renouer connaissance avec lui, car depuis leur arrivée, elles avaient plus d'une fois demandé de ses nouvelles, et, de son côté, il mourait d'envie de les voir. Il parlait d'Elisabeth Nikolaïevna avec un enthousiasme incompréhensible pour moi. Sans doute il se rappelait en elle l'enfant qu'il avait tant aimé jadis. Mais, en dehors de cela, il s'imaginait, je ne sais pourquoi, qu'auprès d'elle, il trouverait tout de suite un soulagement à ses peines présentes, et même une réponse au grave point d'interrogation posé devant lui. Elisabeth Nikolaïevna lui faisait, par avance, l'effet d'une créature extraordinaire. Et pourtant, il n'allait pas chez elle, quoique chaque jour il en formât le projet. Pour dire toute la vérité, j'étais moi-même très désireux alors d'être présenté à cette jeune fille, et je ne voyais que Stepan Trofimovitch qui put me servir d'introducteur auprès d'elle. Je l'avais plus d'une fois aperçu, se promenant à cheval en compagnie du bel officier, qui passait pour son cousin, le neveu du feu général Drozdov. Et elle avait produit sur moi une impression extraordinaire. Mon aveuglement fut de fort courte durée. Je reconnus vite combien ce rêve était irréalisable. Mais avant qu'il se dissipât, on comprend la colère que je dus souvent éprouver en voyant mon pauvre ami s'obstiner dans son existence d'ermite. Dès le début, tous les nôtres avaient été officiellement informés que les réceptions de Stepan Trofimovitch étaient momentanément suspendues. Quoi que je fisse pour l'en dissuader, il tint à leur notifier la chose. Sur sa demande, je passai donc chez toutes nos connaissances. Je leur dis que Barbara Petrovna avait confié un travail extraordinaire à notre vieux. C'était ainsi que nous appelions entre nous Stepan Trofimovitch. Qu'il avait à mettre en ordre une correspondance embrassant plusieurs années, qu'il s'était enfermé, que je l'aidais dans sa besogne, etc., etc. Lipoutine était le seul chez qui je ne fusse pas encore allé. Je remettais toujours cette visite, et, à dire vrai, je n'osais pas la faire. « Il ne croira pas un mot de ce que je lui raconterai, » me disais-je. « Il ne manquera pas de s'imaginer qu'il y a là un secret qu'on veut lui cacher, à lui surtout, et dès que je l'aurai quitté, il courra toute la ville pour recueillir des informations et répandre des cancans. » Tandis que je me faisais ces réflexions, je le rencontrai par hasard dans la rue. Les nôtres, que je venais de prévenir, l'avaient déjà mis au courant. Mais, chose étrange, loin de me questionner et de me témoigner aucune curiosité à l'endroit de Stepan Trofimovitch, il m'interrompit dès que je voulus m'excuser de n'être pas encore allé chez lui, et aborda aussitôt un autre sujet de conversation. À la vérité, ce n'était pas la matière qui lui manquait. Il avait une grande envie de causer et était enchanté d'avoir trouvé en moi un auditeur. Il commença à parler des nouvelles de la ville, de l'arrivée de la gouvernante, de l'opposition qui se formait déjà au club, etc., etc. Bref, il bavarda pendant un quart d'heure et d'une façon si amusante que je ne me lassais pas de l'entendre. Quoique je ne pusse le souffrir, j'avoue qu'il avait le talent de se faire écouter, surtout quand il pestait contre quelque chose. Cet homme, à mon avis, était né espion. Il savait toujours les dernières nouvelles et connaissait toute la chronique secrète de la ville, particulièrement les Villenies. On ne pouvait que s'étonner en voyant combien il prenait à cœur des choses qui, parfois, ne le concernaient pas du tout. Il m'a toujours semblé que le trait dominant de son caractère était l'envie. Le même soir, je fis part à Stepan Trofimovitch de ma rencontre avec Lipoutine et de l'entretien que nous avions eu ensemble. À ma grande surprise, il parut extrêmement agité et me posa cette étrange question. « Lipoutine, sait-il ou non ?» J'essayai de lui démontrer que, dans un temps si court, Lipoutine n'avait rien pu apprendre. D'ailleurs, par qui aurait-il été mis au fait ? Mais Stepan Trofimovitch ne se rendit point à mes raisonnements. « Croyez-le ou non, finit-il par me dire. Moi, je suis persuadé que non seulement il connaît notre situation dans tous ses détails, mais que de plus, il sait encore quelque chose que ni vous ni moi ne savons. Quelque chose que nous ne saurons peut-être jamais, ou que nous apprendrons quand il sera trop tard, quand il n'y aura plus moyen de revenir en arrière. » Je ne répondis rien, mais ces paroles donnaient fort à penser. Durant les 5 jours qui suivirent, il ne fut plus du tout question de Lipoutine entre nous. Je voyais très bien que Stepan Trofimovitch regrettait vivement de n'avoir pas su retenir sa langue et d'avoir manifesté de tels soupçons devant moi. Sept ou 8 jours après le consentement donné par Stepan Trofimovitch à son mariage, tandis que je me rendais, selon mon habitude, vers 11 heures du matin chez le pauvre fiancé, il m'arriva une aventure en chemin. Je rencontrai Karmazinov, le grand écrivain, comme l'appelait Lipoutine. Ses romans sont connus de toute la dernière génération, et même de la nôtre. Dès l'enfance, je les avais lus, et j'en avais été enthousiasmé. Ils avaient fait la joie de mes jeunes années. Plus tard, je me refroidis un peu pour les productions de sa plume. Les ouvrages à tendance de sa seconde manière me plurent moins que les premiers où il y avait tant de poésie spontanée. Les derniers me déplurent tout à fait. À en croire la renommée, il n'était rien que Karmazinov mis au-dessus de ses relations avec les hommes puissants et avec la haute société. On racontait qu'il vous faisait l'accueil le plus charmant, vous comblait d'amabilité, vous séduisait par sa bonhomie, surtout s'il avait besoin de vous, et si, bien entendu, vous lui aviez été présenté au préalable. Mais, à l'arrivée du premier prince, de la première comtesse, du premier personnage dont il avait peur, il s'empressait de vous oublier avec le dédain le plus insultant, comme un copeau, comme une mouche, et cela avant même que vous fussiez sorti de chez lui. Cette manière d'agir lui paraissait le suprême du bon ton. Malgré une connaissance parfaite du savoir-vivre, il était, disait-on, si follement vaniteux qu'il ne pouvait cacher son irascibilité d'écrivain, même dans les milieux sociaux où l'on ne s'occupe guère de littérature. Si quelqu'un semblait se soucier peu de ses ouvrages, il en était mortellement blessé et ne respirait que vengeance. Dès que s'était répandu chez nous le bruit de la prochaine arrivée de Karmazinov, j'avais conçu un vif désir de le voir, et, si c'était possible, de faire sa connaissance. Je savais que je pourrais y arriver par Stepan Trofimovitch, qui avait été son ami autrefois. Et voilà que tout à coup je le rencontre dans un carrefour. Je le reconnus tout de suite. 3 jours auparavant, on me l'avait montré, se promenant en calèche avec sa gouvernante. C'était un petit homme aux airs pincés, qu'on aurait pris pour un vieillard, quoiqu'il n'eût pas plus de 50 ans. D'épaisses boucles de cheveux blancs sortaient de dessous son chapeau à haute forme et s'enroulaient autour d'oreilles petites et rosées. Son visage assez vermeil n'était pas fort beau. Il avait un nez un peu gros, des petits yeux vifs et spirituels, des lèvres longues et minces, dont le pli dénotait l'astuce. Sur ses épaules était négligemment jeté un manteau, comme on en aurait porté à cette saison en Suisse ou dans l'Italie septentrionale. Mais, du moins, tous les menus accessoires de son costume, boutons de manchette, lorgnons, bagues, etc., étaient d'un goût irréprochable. Je suis sûre qu'en été, il doit porter des bottines de prunelles à boutons de nacre. Quand nous nous rencontrâmes, il était arrêté au coin d'une rue et cherchait à s'orienter. S'apercevant que je le regardais avec curiosité, il m'adressa la parole d'une petite voix mielleuse, quoique un peu criarde. « Permettez-moi de vous demander le plus court chemin pour aller rue des Bœufs. »« Rue des Bœufs? Mais c'est ici tout près !» m'écriai-je en proie à une agitation extraordinaire. « Vous n'avez qu'à suivre cette rue et prendre ensuite la deuxième à gauche. »« Je vous suis bien reconnaissant. » Minute maudite. Je crois que j'étais intimidé et que ma physionomie avait une expression servile. Il remarqua tout cela en un clin d'œil, et à l'instant sans doute comprit tout, c'est-à-dire que je savais qui il était, que je l'avais vu, que je l'admirais depuis mon enfance, et qu'en ce moment je me sentais troublée devant lui. Il sourit, inclina encore une fois la tête, et se mit en marche dans la direction que je lui avais indiquée. J'ignore comment il se fit qu'au lieu de continuer ma route, je le suivis à quelques pas de distance. Tout à coup, il s'arrêta de nouveau. « Ne pourriez-vous pas me dire où je trouverais une station de fiacre ?» me cria-t-il. « Vilain cri, vilaine voix !»« Une station de fiacre? Mais il y en a une à 2 pas d'ici, près de la cathédrale. C'est toujours là que les cochers se tiennent, » répondis-je. Et peu s'en fallut que je ne courusse chercher une voiture à Kermazinov. Je présume qu'il attendait justement cela de moi. Bien entendu, je me ravisai à l'instant même et n'en fis rien. Mais mon mouvement ne lui échappa point, et l'odieux sourire de tout à l'heure reparut sur ses lèvres. Alors se produisit un incident que je n'oublierai jamais. Il laissa soudain tomber un sac minuscule qu'il tenait dans sa main gauche. Du reste, ce n'était pas, à proprement parler, un sac, mais une petite boîte, ou plutôt un petit portefeuille, ou, mieux encore, un ridicule dans le genre de ceux que les dames portaient autrefois. Enfin, je ne sais pas ce que c'était. Tout ce que je sais, c'est que je me précipitais pour ramasser cet objet. Je suis parfaitement convaincue que je ne le ramassai pas. Mais le premier mouvement fait par moi était incontestable. Il n'y avait plus moyen de le cacher. Et je rougis comme un imbécile. Le malin personnage tira aussitôt de la circonstance tout ce qu'il lui était possible d'en tirer. « Ne vous donnez pas la peine, je le ramasserai moi-même. » me dit-il avec une grâce exquise, quand il fut bien sûr que je ne lui rendrais pas ce service. Puis il ramassa son ridicule en ayant l'air de prévenir ma politesse, et s'éloigna, après m'avoir une dernière fois salué d'un signe de tête. Je restais tout sot. C'était exactement comme si j'avais moi-même ramassé son sac. Pendant 5 minutes, je me figurais que j'étais un homme déshonoré. Ensuite, je partis d'un éclat de rire, Cette rencontre me parut si drôle que je résolus de la raconter à Stepan Trofimovitch pour l'égayer un peu. Cette fois, je constatais, non sans surprise, un changement extraordinaire en lui. Dès que je fus entré, il s'avança vers moi avec un empressement particulier et se mit à m'écouter. Seulement, il avait l'air si distrait qu'il ne comprit évidemment pas les premiers mots de mon récit. Mais à peine eus-je prononcé le nom de Karmazinov que je le vis perdre tout sang-froid. « Ne me parlez plus ! Taisez-vous ! » s'écria-t-il avec une sorte de rage. « Voilà, voilà, regardez, lisez, lisez !» Il prit dans un tiroir et jeta sur la table trois petits morceaux de papier sur lesquels Barbara Petrovna avait griffonné à la hâte quelques lignes au crayon. Le premier billet remontait à l'avant-veille, le second avait été écrit la veille et le dernier était arrivé depuis une heure. Tous trois, fort insignifiants, avaient trait à Karmazinov et dénotaient chez Barbara Petrovna la crainte puérile que le grand écrivain n'oubliât de lui faire visite. Premier billet. S'il daigne enfin vous aller voir aujourd'hui, je vous prie de ne pas lui parler de moi, pas le moindre mot. Ne me rappelez d'aucune manière à son attention. B. S. Deuxième billet. S'il se décide enfin à vous faire visite ce matin, vous agirez, je crois, plus noblement en refusant de le recevoir. Voilà mon avis. Je ne sais comment vous en jugerez. B. S. Troisième et dernier billet. Je suis sûr qu'il y a chez vous une pleine charretée d'ordures et que la fumée de tabac empoisonne votre logement. Je vous enverrai Marie et Thomas dans l'espace d'une demi-heure. Ils mettront tout en ordre. Mais ne les gênez pas, et restez dans votre cuisine pendant qu'ils nettoieront. Je vous envoie un tapis de Boukhari et deux vases chinois. Depuis longtemps, je me proposais de vous les offrir. J'y joins mon ténier, que je vous prête. On peut placer les vases sur une fenêtre. Quant au ténier, pendez-le à droite, sous le portrait de Goethe. Là, il sera plus en vue. S'il se montre enfin, recevez-le avec une politesse raffinée, mais tâchez de mettre la conversation sur des riens, sur quelques sujets scientifiques. Faites comme si vous retrouviez un ami que vous auriez quitté hier. Pas un mot de moi. Peut-être passerai-je chez vous dans la soirée. B. S. Post-scriptum. S'il ne vient pas aujourd'hui, il ne viendra jamais. Après avoir pris connaissance de ces billets, je m'étonnais de l'agitation que de pareilles niaiseries causaient à Stepan Trofimovitch. En l'observant d'un œil anxieux, je remarquai tout à coup que, pendant ma lecture, il avait remplacé sa cravate blanche accoutumée par une cravate rouge. Son chapeau et sa canne se trouvaient sur la table. Il était pâle et ses mains tremblaient. « Je ne veux pas connaître ses préoccupations !» cria-t-il avec colère en réponse au regard interrogateur que je fixais sur lui. « Je m'en fiche. Elle a le courage de s'inquiéter de Karmazinov et elle ne répond pas à mes lettres. Tenez, voilà la lettre qu'elle m'a renvoyée hier, non décachetée. Elle est là, sur la table, sous le livre, sous l'homme qui rit. Que m'importe ces tracas au sujet de Nikolanka ? Je m'en fiche et je proclame ma liberté. Ô diable Karmazinov, ô diable la lampe. Les vases, je les ai cachés dans l'antichambre. Le ténier, je l'ai fourré dans une commode, et je l'ai sommé de me recevoir à l'instant même. Vous entendez? Je l'ai sommé. J'ai fait comme elle. J'ai écrit quelques mots au crayon sur un chiffon de papier. Je n'ai même pas cacheté ce billet, et je l'ai fait porter par Nastasia. Maintenant, j'attends. Je veux que Daria Pavlovna elle-même s'explique avec moi à la face du ciel, ou du moins devant vous. Vous me seconderez, n'est-ce pas, comme ami et témoin. Je ne veux pas rougir, je ne veux pas mentir, je ne veux pas de secret, je n'en admets pas dans cette affaire. qu'on m'avoue tout, franchement, ingénument, noblement. Et alors ? Alors, peut-être, étonnerai-je toute la génération par ma magnanimité. Suis-je un lâche, oui ou non, monsieur ? Acheva-t-il tout à coup, en me regardant d'un air de menace, comme si je l'avais pris pour un lâche. Je l'engageai à boire de l'eau. Je ne l'avais pas encore vu dans un pareil état. Tout en parlant, il courait d'un coin de la chambre à l'autre, mais soudain, il se campa devant moi dans une attitude extraordinaire. « Pouvez-vous penser, reprit-il en me toisant des pieds à la tête, pouvez-vous supposer que moi, Stepan Verkhovansky, je ne trouverai pas en moi assez de force morale pour prendre ma besace de mendiant, pour en charger mes faibles épaules et pour m'éloigner à jamais d'ici, quand l'exigeront l'honneur et le grand principe de l'indépendance ? Ce ne sera pas la première fois que Stepan Verkhovansky aura opposé la grandeur d'âme au despotisme, fût-ce le despotisme d'une femme insensée, c'est-à-dire le despotisme le plus insolent et le plus cruel qui puisse exister au monde, en dépit du sourire que mes paroles viennent, je crois, d'amener sur vos lèvres, monsieur. Oh ! Vous ne croyez pas que je puisse trouver en moi assez de grandeur d'âme pour savoir finir mes jours en qualité de précepteur chez un marchand, ou mourir de faim au pied d'un mur ? Répondez, répondez sur le champ. Le croyez-vous ou ne le croyez-vous pas ? Je me tus, comme un homme qui craint d'offenser son interlocuteur par une réponse négative, mais qui ne peut en conscience lui répondre affirmativement. Dans toute cette irritation, il y avait quelque chose dont j'étais décidément blessé, et pas pour moi, oh non, mais je m'expliquerai plus tard. Il pâlit. Peut-être vous vous ennuyez avec moi. C'est mon nom, et vous désireriez mettre fin à vos visites ? Dit-il de ce ton glacé qui précède d'ordinaire les grandes explosions. Inquiet, je m'élançai vers lui. Au même instant, entra Nastasia. Elle tendit silencieusement un petit papier à Stepan Trofimovitch. Il le regarda, puis me le jeta. C'était la réponse de Barbara Petrovna. Trois mots écrits au crayon. « Restez chez vous. » Stepan Trofimovitch prit son chapeau et sa canne, sans proférer une parole, et sortit vivement de la chambre. Machinalement, je le suivis. Tout à coup, un bruit de voix et de pas pressés se fit entendre dans le corridor. Il s'arrêta, comme frappé d'un coup de foudre. « C'est Liputin ! Je suis perdu !» murmura-t-il en me saisissant la main. Comme il achevait ces mots, Liputin entra dans la chambre. IV. Pourquoi était-il perdu par le fait de l'arrivée de Liputin ? Je l'ignorais. Et d'ailleurs, je n'attachais aucune importance à cette parole. Je mettais tout sur le compte des nerfs. Mais sa frayeur ne laissait pas d'être étrange, et je me promis d'observer attentivement ce qui allait suivre. À première vue, la physionomie de Liputin montrait que, cette fois, il avait un droit particulier d'entrée, en dépit de toutes les consignes. Il était accompagné d'un monsieur inconnu de nous, et sans doute étranger à notre ville. En réponse au regard hébété de Stepan Trofimovitch, que la stupeur avait cloué sur place, il s'écria aussitôt d'une voix retentissante. « Je vous amène un visiteur, et pas le premier venu. Je me permets de troubler votre solitude. Monsieur Kirillov, ingénieur et architecte très remarquable. Mais le principal, c'est qu'il connaît votre fils, le très estimé Pierre Stepanovitch. Il le connaît tout particulièrement, et il a été chargé par lui d'une commission pour vous. Il vient seulement d'arriver. » La commission, c'est vous qui l'avez inventée, observa d'un ton roide le visiteur. Je ne suis chargé d'aucune commission. Mais je connais en effet Verkhovansky. Je l'ai laissé, il y a 10 jours, dans le gouvernement de K. Stepan Trofimovitch lui tendit machinalement la main et l'invita du geste à s'asseoir. Puis il me regarda Lipoutine, et, comme rappelé soudain au sentiment de la réalité, il se hâta de s'asseoir lui-même. Mais, sans le remarquer, il tenait toujours à la main sa canne et son chapeau. « Bah, mais vous vous disposiez à sortir. On m'avait pourtant dit que vos occupations vous avaient rendu malade. »« Oui, je suis souffrant. C'est pour cela que je voulais maintenant faire une promenade. Je... » Stepan Trofimovitch s'interrompit, se débarrassa brusquement de sa canne et de son chapeau, et rougit. Pendant ce temps, j'examinais le visiteur. C'était un jeune homme brun, de 27 ans environ, convenablement vêtu, svelte et bien fait de sa personne. Son visage pâle avait une nuance un peu terreuse. Ses yeux étaient noirs et sans éclat. Il semblait légèrement distrait et rêveur. Sa parole était saccadée et incorrecte au point de vue grammatical. S'il avait à construire une phrase de quelque longueur, il avait peine à s'en tirer et transposait singulièrement les mots. Lipoutine remarqua très bien l'extrême frayeur de Stepan Trofimovitch et en éprouva une satisfaction visible. Il s'assit sur une chaise de jonc qu'il plaça presque au milieu de la chambre, de façon à se trouver à égale distance du maître de la maison et de M. Kirillov, lesquels s'étaient assis en face l'un de l'autre sur deux divans opposés. Ses yeux perçants furetaient dans tous les coins. « Je n'ai pas vu Petroucha depuis longtemps. C'est à l'étranger que vous vous êtes rencontrés ?» balbutia Stepan Trofimovitch en s'adressant au visiteur. « Et ici, et à l'étranger. » Alexis Nilitch est lui-même tout fraîchement arrivé de l'étranger, où il a séjourné 4 ans, intervint Lipoutine. Il y était allé pour se perfectionner dans sa spécialité, et il est venu chez nous parce qu'il a lieu d'espérer qu'on l'emploiera à la construction du pont de notre chemin de fer. En ce moment, il attend une réponse. Il a fait, par l'entremise de Pierre Stepanovitch, la connaissance de la famille Drozdov et d'Elisabeth Nikolaïevna. L'ingénieur écoutait avec une impatience mal dissimulée. Il me faisait l'effet d'un homme vexé. « Il connaît aussi Nikola Vsevolodovitch. »« Vous connaissez aussi Nikola Vsevolodovitch ?» demanda Stepan Trofimovitch. « Oui. Il y a un temps infini que je n'ai vu Petroucha, et je me sens si peu en droit de m'appeler son père. C'est le mot. Comment donc l'avez-vous laissé ?»« Mais je l'ai laissé comme à l'ordinaire. Il viendra lui-même, » répondit M. Kirillov, qui semblait pressé de couper court à ses questions. Décidément, il était de mauvaise humeur. « Il viendra. Enfin, voyez-vous, il y a trop longtemps que je n'ai vu Petroucha, » reprit Stepan Trofimovitch, empêtré dans cette phrase. « Maintenant, j'attends mon pauvre garçon, envers qui je suis si coupable. Je veux dire que, dans le temps, quand je l'ai quitté à Pétersbourg, je le considérais comme un zéro. » Vous savez, un garçon nerveux, très sensible et poltron. Au moment de se coucher, il se prosternait jusqu'à terre devant l'icône et faisait le signe de la croix sur son oreiller pour ne pas mourir dans la nuit. Je m'en souviens. Enfin, aucun sentiment du beau, rien d'élevé, pas le moindre germe d'une idée future. C'était comme un petit idiot. Du reste, moi-même, je dois avoir l'air d'un ahuri. Excusez-moi, vous m'avez trouvé... Vous parlez sérieusement quand vous dites qu'il faisait le signe de la croix sur son oreiller ? Demanda brusquement l'ingénieur que ce détail paraissait intéresser. Oui, il faisait le signe de la croix. Cela m'étonne de sa part. Continuez. Stepan Trofimovitch interrogea les yeux Lipoutine. « Je vous suis bien reconnaissant de votre visite, Mais je l'avoue, maintenant, je ne suis pas en état. Permettez-moi pourtant de vous demander où vous habitez.
Rue de l'Épiphanie, maison Philippoff.
Ah, c'est là où demeure Chatoff,
fis-je involontairement.
Justement, c'est dans la même maison, s'écria Lipoutine. Seulement, Chatoff habite en haut, dans la mezzanine, tandis qu'Alexis Nilitch s'est installé en bas, chez le capitaine Lebiatkin. Il connaît aussi Chatoff et la femme de Chatoff. Il s'est trouvé en rapport très intime avec elle pendant son séjour à l'étranger.
Comment se peut-il que vous sachiez quelque chose concernant le malheureux mariage de ce pauvre ami et que vous connaissiez cette femme ?
S'écria avec une émotion soudaine Stepan Trofimovitch.
Vous êtes le premier que je rencontre l'ayant connu personnellement. Et si toutefois...
Quelle bêtise ! Répliqua l'ingénieur dont le visage s'empourpra.
Comme vous brodez, Lipoutine ! Jamais je n'ai été en rapport intime avec la femme de Chatoff.
Une fois, il m'est arrivé de l'apercevoir de loin. Voilà tout. Chatoff, je le connais.
Pourquoi donc inventez-vous toujours des histoires ?
Il se tourna tout d'une pièce sur le divan et prit son chapeau, puis il s'en débarrassa et se rassit à sa première place. En même temps, ses yeux noirs étincelaient, fixés sur Stepan Trofimovitch avec une expression de défi. Je ne pouvais comprendre une irritation si étrange.
« Excusez-moi, » reprit d'un ton digne Stepan Trofimovitch.
« Je comprends que cette affaire est peut-être fort délicate. »«
Il n'y a ici aucune affaire délicate, » répondit M. Kirillov. « Et quand j'ai crié « Quelle bêtise !»« Ce n'est pas à vous que j'en avais, mais à Lipoutine, parce qu'il invente toujours. »«
Pardonnez-moi si vous avez pris cela pour vous. »«
Je connais Chatoff, mais je ne connais pas du tout sa femme. »« Pas du tout. »«
J'ai compris, j'ai compris. » « Si j'insistais, c'est seulement parce que j'aime beaucoup notre pauvre ami, notre irascible ami, et parce que je me suis toujours intéressée. Cet homme a eu tort, selon moi, de renoncer si complètement à ses anciennes idées, qui péchaient peut-être par un excès de jeunesse, mais qui ne laissaient pas d'être juste au fond. À présent, il divague à un tel point sur notre Sainte Russie, que j'attribue cette lésion de son organisme, je ne veux pas appeler la chose autrement, à quelque forte secousse domestique, et notamment à son malheureux mariage. Moi qui ai étudié à fond notre pauvre Russie, et consacré toute ma vie au peuple russe, je puis vous assurer qu'il ne le connaît pas, et que de plus...
Moi non plus je ne connais nullement le peuple russe, et je n'ai pas le temps de l'étudier.
Fit brusquement l'ingénieur, interrompant Stepan Trofimovitch au beau milieu de sa phrase.
Il l'étudie, remarqua Lipoutine. Il a déjà commencé à l'étudier. Il est en train d'écrire un article très curieux sur les causes qui multiplient les cas de suicide en Russie, et, d'une façon générale, sur les influences auxquelles est due l'augmentation ou la diminution des suicides dans la société. Il est arrivé à des résultats étonnants.
L'ingénieur se fâcha.
« Vous n'avez aucunement le droit de dire cela »
grommela-t-il avec colère.
« Je ne fais pas du tout d'article. Je ne donne pas dans ces stupidités. Je vous ai demandé quelques renseignements en confidence et tout à fait par hasard. Il n'est pas question d'article. Je ne publie rien et vous n'avez pas le droit. »
Cette irritation semblait faire le bonheur de Lipoutine.
Pardon, j'ai pu me tromper en donnant le nom d'article à votre travail littéraire. Alexis Nilitch se borne à recueillir des observations et ne touche pas du tout au fond de la question, à ce qu'on pourrait appeler son côté moral. Bien plus, il repousse absolument la morale elle-même et tient pour le principe moderne de la destruction universelle comme préface à la réforme sociale. Il réclame plus de 100 millions de têtes pour établir en Europe le règne du bon sens. C'est beaucoup plus qu'on en a demandé au dernier congrès de la paix. En ce sens, Alexis Nilitch va plus loin que personne. »
L'ingénieur écoutait, un pâle et méprisant sourire sur les lèvres. Pendant une demi-minute, tout le monde se tut.
« Tout cela est bête, Lipoutine !»
dit enfin avec une certaine dignité M. Kirillov. « Si je vous avais exposé ma manière de voir, vous seriez libre de la critiquer. Mais vous n'avez pas ce droit-là, parce que je ne parle jamais à personne. Je dédaigne de parler. Si j'ai telle ou telle conviction, c'est que cela est clair pour moi. Et le langage que vous venez de tenir est bête. Je ne disserte pas sur les points qui sont tranchés pour moi. Je ne puis souffrir la discussion. Je ne veux jamais raisonner.
Et peut-être vous faites bien,
ne put s'empêcher d'observer Stepan Trofimovitch.
Je vous demande pardon, mais ici je ne suis fâché contre personne,
poursuivit avec vivacité le visiteur. Depuis 4 ans, j'ai vu peu de monde. Pendant ces 4 années, j'ai peu causé. J'évitais les rapports avec les gens parce que cela était sans utilité pour mes buts. Lipoutine a découvert cela, et il en rit. Je le comprends, et je n'y fais pas attention. Je suis seulement vexé de la liberté qu'il prend. Mais si je ne vous expose pas mes idées, acheva-t-il à l'improviste, en nous enveloppant tous d'un regard assuré, ce n'est pas du tout que je craigne d'être dénoncé par vous au gouvernement. Non, je vous en prie, n'allez pas vous figurer des bêtises pareilles.
Personne ne répondit à ces mots. Nous nous contentâmes de nous regarder les uns les autres.
Lipoutine lui-même cessa de rire.
« Messieurs, je suis désolé, » dit Stepan Trofimovitch, se levant avec résolution. « Mais je ne me sens pas bien, excusez-moi. »«
Ah, il faut s'en aller, » remarqua M. Kirillov en prenant son chapeau. « Vous avez bien fait de le dire, sans cela je n'y aurais pas pensé. »
Il se leva et, avec beaucoup de bonhomie, s'avança, la main tendue, vers le maître de la maison.
« Je regrette d'être venu vous déranger alors que vous êtes souffrant. »«
Je vous souhaite chez vous tout le succès possible, » répondit Stepan Trofimovitch en lui serrant cordialement la main. « Si, comme vous le dites, vous avez vécu si longtemps à l'étranger, si vous avez, dans l'intérêt de vos buts, évité le commerce des gens et oublié la Russie, je comprends que vous vous trouviez un peu dépaysé au milieu de nous autres, Russes primitifs. Mais cela passera. Il y a seulement une chose qui me chiffonne. Vous voulez construire notre pont et en même temps vous vous déclarez partisan de la destruction universelle. On ne vous confiera pas la construction de notre pont.
Comment ? Que dites-vous ?
Ah, diable !
S'écria Kirillov, frappé de cette observation. Et il se mit à rire avec la plus franche gaieté. Durant un instant, son visage prit une expression tout à fait enfantine, qui, me sembla-t-il, lui allait très bien. Lipoutine se frottait les mains, enchanté du mot spirituel de Stepan Trofimovitch. Et moi, je ne cessais de me demander pourquoi ce dernier avait eu si peur de Lipoutine. Pourquoi, en entendant sa voix, il s'était écrié « Je suis perdu !»
V. Nous nous arrêtâmes tous sur le seuil de la porte. C'était le moment où maître de maison et visiteur échangent les dernières civilités avant de se séparer.
« S'il est de mauvaise humeur aujourd'hui, » dit brusquement Lipoutine, « c'est parce qu'il a eu tantôt une prise de bec avec le capitaine Lebiatkin à propos de la sœur de celui-ci. Elle est folle, et chaque jour le capitaine Lebiatkin lui donne le fouet. Il la fustige matin et soir avec une vraie nagaïka de cosaque. Alexis Nilitch s'est même transféré dans un pavillon attenant à la maison pour ne plus être témoin de ces scènes. Allons, au revoir. »
Une sœur ? « Malade ? Avec une nagaïka ?» s'écria Stepan Trofimovitch, comme si on l'avait lui-même cinglé d'un coup de fouet. « Quelle sœur ? Quelle Lebiatkin ? sa frayeur de tantôt l'avait ressaisie instantanément. « Les Biatkine, mais c'est un capitaine en retraite. Auparavant, il s'intitulait seulement capitaine d'état-major. Et que m'importe son grade? Quelle sœur! Mon Dieu, les Biatkine, dites-vous? Mais nous avons eu ici un les Biatkine. C'est celui-là même, c'est notre les Biatkine, celui de Virginsky, vous vous rappelez? Mais celui-là a été pris faisant circuler de faux assignats. Eh bien, il est revenu, il y a à peu près 3 semaines, et dans des circonstances très particulières. Mais c'est un vaurien! Comme s'il ne pouvait pas y avoir de vaurien chez nous, fit brusquement Lipoutine. Il souriait, et ses petits yeux malins semblaient vouloir fouiller dans l'âme de Stepan Trofimovitch. Ah, mon Dieu, ce n'est pas du tout de cela que je... Quoique, du reste, je sois parfaitement d'accord avec vous sur ce point. Mais la suite, que vouliez-vous dire par là? Voyons, vous vouliez certainement dire quelque chose. Tout cela n'a aucune importance. D'après toutes les apparences, ce n'est pas une affaire de faux billets qui a motivé dans le temps le départ de ce capitaine. Il a quitté notre ville simplement pour se mettre en quête de sa sœur. Celle-ci, paraît-il, s'était réfugiée dans un endroit inconnu, espérant se dérober à ses recherches. Eh bien, il vient de la ramener ici. Voilà toute l'histoire. On dirait que vous avez peur, Stepan Trofimovitch. Pourquoi cela? Du reste, je ne fais que répéter ici les propos qu'il tient sous l'influence de la boisson. Quand il n'est pas ivre, il se tait là-dessus. C'est un homme irascible, et pour ainsi dire, un militaire frotté d'esthétique, mais de mauvais goût. Quant à sa sœur, elle est non seulement folle, mais encore boiteuse. Il paraît qu'elle a été séduite par quelqu'un, et que depuis plusieurs années déjà, M. Lebiatkine reçoit du séducteur un tribut annuel en réparation du préjudice causé à l'honneur de sa famille. Du moins, voilà ce qui ressort de ses bavardages. Mais, à mon avis, ce ne sont que des paroles d'ivrogne et pure hâblerie. Les Lovelace s'en tirent à bien meilleur marché. Quoi qu'il en soit, une chose certaine, c'est qu'il a de l'argent. Il y a une douzaine de jours, il allait pieds nus. Et maintenant, je l'ai vu moi-même. Il a des centaines de roubles à sa disposition. Sa sœur a tous les jours des accès, durant lesquels elle pousse des cris, et il la morigène à coups de nagaïka. « C'est ainsi, dit-il, qu'il faut inculquer le respect à la femme. Je ne comprends pas comment Chatov, qui demeure au-dessus d'eux, n'a pas encore déménagé. Alexis Nilitch n'a pas pu y tenir. Il avait fait leur connaissance à Pétersbourg, mais il n'est resté que 3 jours chez eux. À présent, pour être tranquille, il s'est installé dans le pavillon. « Tout cela est vrai ? » demanda Stepan Trofimovitch à l'ingénieur. « Vous êtes fort bavard, Lipoutine, » murmura d'un ton fâché M. Kirillov. « Des mystères, des secrets. Comment se fait-il qu'il y ait tout à coup chez nous tant de secrets et de mystères ?» s'écria Stepan Trofimovitch, incapable de se contenir. L'ingénieur fronça le sourcil, rougit, et, avec un haussement d'épaule, sortit de la chambre. Alexis Nilitch lui a même arraché son fouet, qu'il a brisé et jeté par la fenêtre. Ils ont eu une vive altercation ensemble, ajouta Lipoutine. À quoi bon ce bavardage, Lipoutine? C'est bête, à quoi bon? Dit Alexis Nilitch en faisant un pas en arrière. Pourquoi donc cacher, par modestie, les nobles mouvements de son âme, c'est-à-dire de votre âme, je ne parle pas de la mienne. « Comme c'est bête, et cela ne sert à rien. Les Biatkine est bête et absolument futile, inutile pour l'action et tout à fait nuisible. Pourquoi racontez-vous toutes ces choses-là? Je m'en vais. »« Ah, quel dommage !» s'écria en souriant Lipoutine. « Sans cela, Stepan Trofimovitch, je vous aurais encore amusé avec une petite anecdote. J'étais même venu dans l'intention de vous la raconter, quoique du reste... « Vous la connaissiez déjà, j'en suis sûr. Allons, ce sera pour une autre fois. Alexis Nilitch est si pressé. Au revoir. Il s'agit dans cette anecdote de Barbara Petrovna. Elle m'a fait rire avant-hier. Elle m'a envoyé chercher exprès. C'est à se tordre, positivement. Au revoir. » Mais Stepan Trofimovitch le saisit violemment par l'épaule, le ramena de force dans la chambre et le fit asseoir sur une chaise. Lipoutine eut même peur. « Mais comment donc ? » commença-t-il de lui-même, tandis qu'il observait avec une intention inquiète le visage de Stepan Trofimovitch. « Elle me fait venir tout à coup chez elle et me demande, confidentiellement, mon opinion personnelle sur l'état mental de Nicolas Vsevolodovitch. N'est-ce pas renversant ?»«
Vous avez perdu l'esprit !»
grommela Stepan Trofimovitch. Et soudain, comme hors de lui, il ajouta. « Lipoutine, vous le savez trop bien. Vous n'êtes venu que pour me communiquer quelques vilenies de ce genre, et pire encore. » Je me rappelais immédiatement ce qu'il m'avait dit peu de jours auparavant. « Non seulement Lipoutine connaît notre position mieux que nous, mais il sait encore quelque chose que nous-mêmes ne saurons jamais. » « Allons donc, Stepan Trofimovitch, » balbutia Lipoutine, qui paraissait fort effrayé. « Allons donc !»« Trêve de dénégation. Commencez. Je vous prie instamment, monsieur Kirillov, de rentrer aussi dans la chambre. Je désire que vous soyez présent. Asseyez-vous. Et vous, Lipoutine, commencez votre récit franchement, simplement. N'essayez pas de recourir à des échappatoires. Si j'avais su que cela vous ferait tant d'effet, je n'aurais rien dit. » Mais je pensais que Barbara Petrovna elle-même vous avait déjà mis au courant. Vous ne pensiez pas cela du tout. Commencez. Commencez donc, vous dit-on. Mais vous aussi, asseyez-vous, je vous prie. Je ne pourrai pas parler si vous continuez à vous agiter ainsi devant moi. Dominant son émotion, Stepan Trofimovitch s'assit avec dignité sur un fauteuil. L'ingénieur regardait le plancher d'un air sombre. Lipoutine le considéra avec une joie maligne. « Mais je ne sais comment entrer en matière. Vous m'avez tellement troublé. » VI Tout à coup, avant-hier, elle m'envoie un de ses domestiques avec prière de l'aller voir le lendemain à midi. Pouvez-vous imaginer cela ? Toute affaire cessante, hier, à midi précis, je me rends chez elle. On m'introduit immédiatement au salon, où je n'ai à attendre qu'une minute. Elle entre, m'offre un siège et s'assied en face de moi. J'osais à peine y croire. Vous savez vous-même quelle a toujours été sa manière d'être à mon égard. Elle aborde la question sans préambule, selon sa coutume. « Vous vous rappelez, me dit-elle, qu'il y a 4 ans, Nicolas Vsevolodovitch, étant malade, a commis quelques actes étranges, dont personne en ville ne savait que penser, jusqu'au moment où tout s'est éclairci. Vous avez vous-même été atteint par un de ces actes. Nicolas Vsevolodovitch, après son retour à la santé, est allé chez vous, sur le désir que je lui en ai témoigné. Je sais aussi qu'auparavant, il avait déjà causé plusieurs fois avec vous. Dites-moi franchement, et sans détour, comment vous ? » À cet endroit de son discours, sa parole devint hésitante. « Comment vous avez trouvé alors Nicolas Vsevolodovitch ? Quel effet a-t-il produit sur vous ? Quelle opinion avez-vous pu vous faire de lui ? Et avez-vous maintenant ?» Ici, son embarras fut tel qu'elle dut s'interrompre pendant 1 minute et qu'elle rougit tout à coup. J'étais inquiet. Elle reprit d'un ton non pas ému, l'émotion ne lui va pas, mais fort imposant. « Je désire que vous me compreniez bien. Je vous ai envoyé chercher parce que je vous considère comme un homme plein de pénétration et de finesse, capable par conséquent de faire des observations exactes. » « Comment trouvez-vous ces compliments ? » ?»« Vous comprendrez aussi, sans doute, que c'est une mère qui vous parle. » Nicolas Vsevolodovitch a éprouvé dans la vie certains malheurs et traversé plusieurs vicissitudes. Tout cela a pu influer sur l'état de son esprit. Bien entendu, il n'est pas question ici, il ne saurait être question d'aliénation mentale. Ces mots furent prononcés d'un ton ferme et hautain. Mais il a pu résulter de là quelque chose d'étrange, de particulier, un certain tour d'idée, une disposition à voir les choses sous un jour spécial. Ce sont ces expressions textuelles, et j'admirais, Stepan Trofimovitch, avec quelle précision Barbara Petrovna savait s'expliquer. C'est une dame d'une haute intelligence. Du moins, continua-t-elle, j'ai moi-même remarqué chez lui une sorte d'inquiétude constante et une tendance à des inclinations particulières. Mais je suis mère, et vous, vous êtes un étranger. Par suite, vous êtes en mesure, avec votre intelligence, de vous former une opinion plus indépendante. Je vous supplie enfin. C'est ainsi qu'elle s'est exprimée. Je vous supplie. De me dire toute la vérité, sans aucune réticence. Et si en outre, vous me promettez de ne jamais oublier le caractère confidentiel de cet entretien, vous pouvez compter qu'à l'avenir, je ne négligerai aucune occasion de vous témoigner ma reconnaissance. Eh bien, qu'est-ce que vous en dites? Vous m'avez tellement stupéfié, bégaya Stepan Trofimovitch, que je ne vous crois pas. Lipoutine n'eut pas l'air de l'avoir entendu. Non, notez encore ceci, poursuivit-il. Il fallait qu'elle fût joliment inquiète et agitée pour avoir adressé, elle si grande dame, une pareille question à un homme comme moi, et pour s'être abaissée même jusqu'à me demander le secret. Qu'est-ce qu'il y a donc? Aurait-on appris quelques nouvelles inattendues concernant Nicolas Vsevolodovitch? Je ne sais. Aucune nouvelle. Je n'ai pas vu Barbara Petrovna depuis plusieurs jours, balbutia Stepan Trofimovitch, qui évidemment avait peine à renouer le fil dans ses idées. Mais je vous ferai observer, Lipoutine, je vous ferai observer que, si l'on vous a parlé en confidence, et qu'à présent devant tout le monde vous...
Tout à fait en confidence, que la foudre me frappe si je mens. Voilà, si je... Mais puisque c'est ici, eh bien, qu'est-ce que cela fait? Voyons, nous tous ici présents, y compris même Alexis Nilitch, est-ce que nous sommes des étrangers?
Je ne parle pas cette manière de voir. Sans doute, nous sommes ici trois qui garderons le silence. Mais pour ce qui est de vous, je ne crois pas du tout à votre discrétion.
Que dites-vous donc? Je suis plus intéressée que personne à me taire, puisqu'on m'a promis une reconnaissance éternelle. Eh, tenez, je voulais justement, à ce propos, vous signaler un cas extrêmement étrange, plutôt psychologique, pour ainsi dire, que simplement étrange. Hier soir, encore tout remué par mon entretien avec Barbara Petrovna, vous pouvez vous figurer vous-même quelle impression il a produite sur moi. Je questionnais Alexis Nilitch. Vous avez connu, lui dis-je, Nicolas Vsevolodovitch, tant à l'étranger qu'à Pétersbourg. Comment le trouvez-vous sous le rapport de l'esprit et des facultés? Il me répond laconiquement, à sa manière, que c'est un homme d'un esprit fin et d'un jugement sain. Mais, reprends-je, n'avez-vous jamais remarqué chez lui une certaine déviation d'idées, un tour d'esprit particulier, comme qui dirait une sorte de folie? Bref, je répète la question que m'avait posée Barbara Petrovna elle-même. Alors, figurez-vous, je vois Alexis Nilitch devenir tout à fait pensif et faire une mine renfrognée. Tenez, tout à fait comme à présent. Oui, dit-il, quelque chose m'a parfois paru étrange. Or, pour qu'une chose paraisse étrange à Alexis Nilitch, il ne faut pas demander si elle doit l'être, n'est-ce pas?
C'est vrai, fit Stepan Trofimovitch en s'adressant à l'ingénieur. Celui-ci releva brusquement la tête, ses yeux étincelaient.
Je désirerais ne pas parler de cela, répondit-il. Je veux contester votre droit, Lipoutine. Vous n'avez nullement le droit d'invoquer mon témoignage. Je suis loin de vous avoir dit toute ma pensée.
J'ai fait la connaissance de Nicolas Vsevolodovitch à Pétersbourg, mais il y a longtemps de cela. Et quoique je l'ai revu depuis, je le connais fort peu. Je vous prie de me laisser en dehors de vos cancans. »
Lipoutine écarta les bras comme un innocent injustement accusé.
« Moi, un cancanier ? Pourquoi pas tout de suite un espion ? Vous l'avez belle, Alexis Nilitch, à critiquer les autres, quand vous vous tenez en dehors de tout. »
Voilà le capitaine Libiatkin. Vous ne sauriez croire, Stepan Trofimovitch, à quel point il est bête. On n'ose même pas le dire.
Il y a en russe une comparaison qui exprime ce degré de bêtise. Il croit, lui aussi, avoir à se plaindre de Nicolas Vsevolodovitch, dont il reconnaît cependant la supériorité intellectuelle.
« Cet homme m'étonne, dit-il. C'est un très sage serpent. »
Telles sont ses propres paroles.
Hier, je l'interroge à son tour. J'étais toujours sous l'influence de ma conversation avec Barbara Petrovna, et je songeais aussi à ce que m'avait dit Alexis Nilitch.
« Eh bien, capitaine, lui dis-je, qu'est-ce que vous pensez de votre très sage serpent ? Est-il fou ou non ? »
À ces mots, le croiriez-vous ? Il sursauta comme si je lui avais soudain asséné, sans sa permission, un coup de fouet par derrière.
« Oui, répondit-il, oui, seulement cela ne peut influer... »
« Sur quoi ? »
Il ne l'a pas dit. Mais ensuite, il est tombé dans une rêverie si profonde et si sombre que son ivresse s'est dissipée. Nous étions alors attablés au Tratkin Filipov. Une demi-heure se passa ainsi, puis, brusquement, il déchargea un coup de poing sur la table.
« Oui, dit-il, il est fou. Seulement, cela ne peut pas influer. »
Et de nouveau, il laissa sa phrase inachevée. « Naturellement, je ne vous donne qu'un extrait de notre conversation. La pensée est facile à comprendre. Interrogez qui vous voulez, vous retrouvez chez tous la même idée. Et pourtant, autrefois, cette idée-là n'était venue à l'idée de personne.
« Oui, dit-on, il est fou. C'est un homme fort intelligent, mais il peut être fou tout de même. »
Stepan Trofimovitch restait soucieux. « Et comment Libiatkin connaît-il Nicolas Vsevolodovitch ?
Vous pourriez le demander à Alexis Nilitch, qui tout à l'heure ici m'a traité d'espion. Moi, je suis un espion et je ne sais rien. Mais Alexis Nilitch connaît le fond des choses. » Et se tait.
Je ne sais rien, ou presque rien, répliqua avec irritation l'ingénieur.
Vous payez à boire à Libiatkin pour lui tirer les vers du nez. Vous m'avez amené ici pour me faire parler. Donc vous êtes un espion.
Je ne lui ai pas encore payé à boire. J'estime que le jeu n'en vaudrait pas la chandelle. J'ignore quelle importance ces secrets ont pour vous, mais pour moi ils n'en ont aucune. Au contraire, c'est lui qui me régale de champagne, et non moi qui lui en paye. Il y a une douzaine de jours, il est venu me demander 15 kopecks, et maintenant il jette l'argent par les fenêtres. Mais vous me donnez une idée, et s'il le faut, je lui payerai à boire, précisément pour arriver à connaître tous vos petits secrets,
répondit aigrement Lipoutine.
Stepan Trofimovitch considérait avec étonnement ces deux visiteurs qui le rendaient témoin de leur dispute. Je me doutais que Lipoutine nous avait amené cet Alexis Nilitch exprès pour lui faire arracher par un tiers ce que lui-même avait envie de savoir. C'était sa manœuvre favorite.
« Alexis Nilitch connaît très bien Nicolas Vsevolodovitch, poursuivit-il avec colère. « Seulement, il est cachotier. » Quant au capitaine Libiatkin, au sujet de qui vous m'interrogiez, il l'a connu avant nous tous. Leur relation remonte à 5 ou 6 ans. Ils se sont rencontrés à Pétersbourg, à l'époque où Nicolas Vsevolodovitch menait une existence peu connue et ne pensait pas encore à nous favoriser de sa visite. Il faut supposer que notre prince choisissait assez singulièrement sa société dans ce temps-là. C'est aussi alors, paraît-il, qu'il a fait la connaissance d'Alexis Nilitch.
Prenez garde, Lipoutine. Je vous avertis que Nicolas Vsevolodovitch va bientôt venir ici et qu'il ne fait pas bon se frotter à lui.
Qu'est-ce que je dis ?
je suis le premier à proclamer que c'est un homme d'un esprit très fin et très distingué. J'ai donné hier à Barbara Petrovna les assurances les plus complètes sous ce rapport. Par exemple, ai-je ajouté, je ne puis répondre de son caractère. Lebiatkine m'a parlé hier dans le même sens. J'ai souffert de son caractère, m'a-t-il dit. Eh, Stepan Trofimovitch, vous avez bonne grâce à me traiter de cancanier et d'espion quand c'est vous-même, remarquez-le, qui m'avez forcé à vous raconter tout cela. Voyez-vous, hier, Barbara Petrovna a touché le vrai point. Vous avez été personnellement intéressée dans l'affaire, m'a-t-elle dit. Voilà pourquoi je m'adresse à vous. En effet, c'est bien le moins que je puisse m'occuper de Nicolas Vsevolodovitch, après avoir dévoré une insulte personnelle qu'il m'a faite devant toute la société. Dans ces conditions, il me semble que, sans être cancanier, j'ai bien le droit de m'intéresser à ses faits et gestes. Aujourd'hui, il vous serre la main, et demain, sans rime ni raison, en remerciement de votre hospitalité, il vous soufflette sur les deux joues devant toute l'honorable société, pour peu que la fantaisie lui en vienne. C'est un homme gâté par la fortune, mais surtout, c'est un enragé coureur, un petchourine. Vous qui n'êtes pas marié, Stepan Trofimovitch, vous l'avez belle à me traiter de cancanier parce que je m'exprime ainsi sur le compte de son excellence. Mais si jamais vous épousiez une jeune et jolie femme, vous êtes encore assez vert pour cela. Je vous conseillerais de bien fermer votre porte à notre prince et de vous barricader dans votre maison. Tenez, cette demoiselle Lebiatkine, à qui l'on donne le fouet, n'était qu'elle est folle et bancale, je croirais vraiment qu'elle a été aussi victime des passions de notre général, et que le capitaine fait allusion à cela quand il dit qu'il a été blessé dans son honneur de famille. Dans la vérité, cette conjecture s'accorde peu avec le goût délicat de Nicolas Vsevolodovitch. Mais ce n'est pas une raison pour l'écarter. A priori, quand ces gens-là ont faim, ils mangent le premier fruit que le hasard met à leur portée. Vous allez encore me dire que je fais des cancans. Mais est-ce que je crie cela? C'est le bruit public. Je me borne à écouter ce que crie toute la ville et à dire oui. Il n'est pas défendu de dire oui. La ville crie? À propos de quoi? C'est-à-dire que c'est le capitaine Lebiatkine qui va crier par toute la ville quand il est ivre. Mais n'est-ce pas la même chose que si toute la place criait? En quoi suis-je coupable? Je ne m'entretiens de cela qu'avec des amis, car ici, je crois me trouver avec des amis, ajouta Lipoutine en nous regardant d'un air innocent. Voici le cas qui vient de se produire. Son Excellence étant en Suisse, a, paraît-il, fait parvenir 300 roubles au capitaine Lebiatkine par l'entremise d'une demoiselle très comme il faut, d'une modeste orpheline, pour ainsi dire que j'ai l'honneur de connaître. Or, peu de temps après, Lebiatkine a appris d'un monsieur, que je ne veux pas nommer, mais qui est aussi très comme il faut et partant très digne de foi, que la somme envoyée s'élevait à 1000 roubles et non à 300. Maintenant, donc, Lebiatkine crie partout que cette demoiselle lui a volé 700 roubles et il va la traîner devant les tribunaux. Du moins, il menace de le faire. Il clabaude dans toute la ville. C'est une infamie de votre part, vociféra l'ingénieur qui se leva brusquement. Mais voyons, vous-même êtes ce monsieur très comme il faut à qui je faisais allusion. C'est vous qui avez affirmé à Lebiatkine, au nom de Nicolas Vsevolodovitch, que ce dernier lui avait expédié non pas 300 roubles, mais 1000. Le capitaine lui-même me l'a raconté, étant ivre. C'est un déplorable malentendu. Quelqu'un s'est trompé, et il est arrivé que... Cela ne signifie rien, et vous commettez une infamie. Oui, je veux croire que cela ne signifie rien. Pourtant, vous aurez beau dire, le fait n'en est pas moins triste. Car voilà une demoiselle très comme il faut, qui est d'une part accusée d'un vol de 700 roubles, et d'autre part convaincue de relations intimes avec Nicolas Vsevolodovitch. Mais qu'est-ce qu'il en coûte à son Excellence de compromettre une jeune fille ou de perdre de réputation une femme mariée, comme le cas s'est produit pour moi autrefois. On a sous la main un homme plein de magnanimité, et on lui fait couvrir de son nom honorable les péchés d'autrui. Tel est le rôle que j'ai joué. C'est de moi que je parle. »
Stepan Trofimovitch, pâlissant, se souleva de dessus son fauteuil.
« Prenez garde, Lipoutine, » fit-il. « Ne le croyez pas, ne le croyez pas. Quelqu'un s'est trompé et Lebiadkine est un ivrogne !»
s'écria l'ingénieur en proie à une agitation inexprimable.
« Tout s'expliquera, mais je ne puis plus, et je considère comme une bassesse assez, assez. »
Il sortit précipitamment.
« Qu'est-ce qui vous prend? Je vais avec vous !»
cria Lipoutine inquiet, et il s'élança hors de la chambre à la suite d'Alexis Nilitch.